Vous êtes bien sur La Locale, 97.3 à Saint-Girons, dans La Fille à la Fenêtre, et aujourd'hui ça va plutôt être La Fille dans la Cuisine. Juillet 1860, journal de Anna Kulwick, bonne à tout faire chez un tapissier. Ouvert les volets et allumé le feu de la cuisine. Secoué mes affaires pleines de suie et vidé les cendres. Balayé et épousté les pièces et l'entrée. Mis la table, fait le petit déjeuner. Nettoyé deux paires de bottes. Fait les lits et vidé les pots de chambre. Desservi et lavé la vaisselle du petit déjeuner. Nettoyer l'argenterie, nettoyer les couteaux et préparer le déjeuner. Desservi, nettoyer la cuisine. Déballer un panier. Amener deux poulets à Madame Brewer, revenue avec le message. Fait une tarte, plumer, vider et rôti deux canards. Nettoyer les marches et les pavés à genoux. Passer le gratte-pied à la mine de plomb. Nettoyer les pavés sur rue à genoux. Prix monté. Desservi, fait la vaisselle. Nettoyer l'office à genoux et récurer les tables. Récurer le carrelage dans la maison et nettoyer les rebords des fenêtres. Préparer à 9h le thé pour le patron et Madame Warwick. Mais Anne leur a apporté. Nettoyer les WC, le couloir et l'office à genoux. Laver la porte et nettoyer l'évier. Préparer le souper pour que Anne le monte parce que j'étais trop sale et trop fatiguée pour monter les escaliers. Vous êtes bien sur La Locale, 97.3 à Saint-Girons, dans La Fille à la Fenêtre. Et pour l'émission d'aujourd'hui, cette fille-là, elle n'a plus vraiment le temps de regarder dehors parce qu'elle trime du matin au soir et elle trime de la cave au grenier. Aujourd'hui, on va écouter parler deux personnes. On va écouter parler une fille de cuisine anglaise qui est devenue cuisinière ensuite dans sa carrière de domestique, puis une femme de chambre suisse qui toutes les deux ont travaillé comme domestiques dans la première moitié du XXe siècle. Donc ça fait plusieurs émissions que je vous ai parlé de la condition des femmes de bourgeois à partir des débuts de la révolution industrielle, donc environ à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on va parler des inscrutables, des silencieuses, des invisibles femmes de chambre de l'histoire. C'est une citation de Virginia Woolf dans son livre « Flush ». On va parler des femmes de chambre, on va parler des bonnes à tout faire, des filles de cuisine, des femmes qui travaillaient comme domestiques dans les maisons. On va donc essayer de faire l'histoire sociale des femmes dans les pays occidentaux industrialisés par un autre bout, celui du bas de l'échelle. Le premier livre que je vais lire, ça s'appelle « Les tribulations d'une cuisinière anglaise ». Alors c'est un titre aguicheur pour la vente. En anglais, c'est un livre qui s'appelle « Below Stairs », ce qui veut dire « sous les escaliers ». Donc c'est encore autre chose. C'est un livre de Margaret Powell, et c'est un témoignage qu'elle a fait de sa vie de domestique. Margaret Powell, c'est une Anglaise qui est née en 1907. Elle est morte en 1984. Donc elle a travaillé comme fille de cuisine, puis comme cuisinière jusqu'à un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Et à ce moment-là, elle a épousé son mari qui était laitier. Elle a eu des enfants et dans les années 60, elle s'est rendue compte qu'il y avait un décalage énorme entre elle et ses enfants qui, eux, commençaient à faire des études. Du coup, elle a décidé de passer son baccalauréat, elle a suivi des cours du soir à l'université. Et elle a écrit ce livre qu'elle a publié en 1968 et elle a connu un grand succès avec en Angleterre. Elle a ensuite même publié des romans que j'ai pas lus. Donc ça s'appelle « Les tribulations d'une cuisinière anglaise ». J'aime vraiment pas ce titre. Donc Below Stairs en anglais, et c'est traduit de l'anglais par Hélène Infray. Quand je suis rentrée de la blanchisserie en disant à ma mère que j'avais été renvoyée, elle a été très embêtée. Je pense qu'elle en avait un peu marre de tous ces boulots différents que j'avais faits depuis que j'avais quitté l'école. Alors elle m'a dit « Moi, je croyais que tu y étais pour de bon à la blanchisserie. À 14 ans, tu voulais à tout prix y aller, et à 15 ans, voilà que tu te fais mettre à la porte. Bon, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir que tu entres en condition. Et puis c'est tout. » Entrer en condition, ça voulait dire devenir domestique. Et je n'en avais pas du tout envie. Et pourtant, pas une seconde, je n'ai pensé à protester. J'aurais sans doute pu supplier mon père, vu qu'il avait plutôt tendance à me dorloter. Mais chez nous, c'était ma mère qui menait la barque, et pour les décisions, papa se reposait sur elle. Nous, les enfants, on faisait toujours ce qu'elle disait. C'était comme ça à l'époque, les gosses obéissaient. Alors j'ai dit « bon, d'accord ». Je n'en savais pas tant que ça sur la condition domestique, et ma mère m'a expliqué que c'était un très bon métier, qu'il y avait plein d'avantages, qu'on était bien nourris, bien logés et tout ça, et que l'argent que je toucherais, ça serait mon argent à moi. Naturellement, comme ça arrive souvent quand on regarde en arrière, elle voyait ses années de service de son point de vue de femme mariée, avec un mari toujours au chômage en hiver, 7 enfants et jamais de quoi les nourrir correctement, sans parler de les habiller. Du coup, ces années-là lui apparaissaient comme une période où au moins elle avait eu un peu d'argent à elle. Elle oubliait ce qu'elle nous avait raconté avant, qu'elle était entrée en condition en 1895, à 14 ans, qu'elle avait dû trimer comme un forçat et que les autres domestiques se moquaient d'elle. Quand je lui ai rappelé tout ça, elle a dit « Oui, mais la vie en condition a beaucoup changé depuis. On ne travaille plus autant, on a plus de temps libre. » On a le droit de sortir plus souvent et on gagne plus. Bon, alors qu'est-ce que je pourrais faire en condition, à ton avis ? Écoute, comme tu détestes la couture, ça c'est vrai, j'ai toujours détesté la couture. Le seul endroit où tu pourrais aller, c'est la cuisine. Quand on est femme de service, on doit raccommoder le linge de table. Si on est femme de chambre, on doit raccommoder le linge de maison. Si on travaille à la nurserie, on doit raccommoder et même carrément faire les habits des enfants. Mais comme fille de cuisine, on n'a pas du tout de couture à faire. Alors d'accord, je serai fille de cuisine. Je suis allée à un bureau de placement pour les domestiques. Il y en avait à tous les coins de rue en ce temps-là. Les places de fille de cuisine aussi, ça courait les rues. Parce que c'était tout en bas de l'échelle des gens de maison. Et pourtant, si on voulait devenir cuisinière et qu'on n'avait pas de quoi se payer des cours, le seul moyen d'apprendre le métier, c'était de commencer comme fille de cuisine. On m'a proposé plusieurs places, et finalement j'en ai choisi une dans Adelaide Crescent, à Hove, parce que ça ne faisait pas trop loin de chez nous. C'est là qu'habitaient le révérend Clydesdale et sa femme. Ma mère est venue avec moi pour l'entretien d'embauche. Dans Adelaide Crescent, les maisons étaient immenses. Pour aller du sous-sol au grenier, il y avait bien 130 marches. Et les sous-sols étaient sombres comme des cachots. La partie qui donnait sur la rue, là où il y avait des barreaux aux fenêtres, c'était la salle des domestiques. Quand on était assis dans cette pièce, tout ce qu'on voyait, c'était les jambes des passants. Et quand on était de l'autre côté, c'est-à-dire dans la cuisine, on ne voyait rien du tout, à cause d'un jardin d'hiver en saillie juste au-dessus. Il y avait une minuscule fenêtre en haut du mur, mais pour voir dehors, on devait grimper sur une échelle. Il fallait laisser la lumière allumée toute la journée. Adelaide Crescent, c'est une des plus belles rues de Hove. Les maisons étaient de style Regency, même maintenant qu'elles ont été transformées en appartements, comme les façades ont été conservées, ça ressemble beaucoup à ce que c'était, avec les jardins au milieu. Regency, c'est un style architectural du début du 19e siècle. Naturellement, autrefois, il n'y avait que les résidents qui avaient la clé et qui pouvaient profiter des jardins. Mais bien sûr, ça ne s'appliquait pas aux domestiques, ça, je vous le certifie. Ma mère et moi, quand on est arrivés pour l'entretien, on s'est présentés à la porte principale de la maison. Pendant tout le temps où j'ai travaillé chez les Clydesdale, c'est bien la seule fois où je suis passée par la grande porte. On nous a fait entrer dans un vestibule qui m'a paru le comble du luxe. Il y avait un beau tapis par terre et un escalier très large, entièrement recouvert de moquettes. Rien à voir avec le petit bout de lino qu'on avait posé chez nous au milieu des marches. Dans le vestibule, il y avait aussi une table en acajou, un porte-manteau en acajou, et des miroirs immenses avec des cadres dorés. pour moi, ça respirait tellement la richesse que je me suis dit que les Clydesdale étaient sûrement millionnaires. Je n'avais jamais rien vu de pareil. C'est un majordome qui nous avait ouvert, et ma mère avait dit que j'étais Margaret Langley et que je venais pour la place de fille de cuisine. Ce majordome, c'était un vrai nabo. Moi qui croyais que les majordomes étaient toujours grands et imposants. Dans le vestibule, on a vu un monsieur assez âgé et la dame qui allait nous recevoir pour l'entretien, et on nous a fait entrer dans une pièce qui était visiblement la salle de jeu des enfants. C'est ma mère qui a parlé tout le temps, parce que moi j'étais abasourdie. Dans cette pièce-là, on aurait pu mettre sans problème les trois où je vivais avec ma famille, alors que c'était juste une salle de jeu. Et puis j'étais paralysée par la timidité. Ce que je pouvais être mal à l'aise en ce temps-là, c'était horrible. Il faut dire que la dame, Madame Clydesdale, m'examinait de la tête aux pieds comme si on était au marché aux esclaves. Elle avait l'air de soupeser mes capacités. Ma mère lui a dit que j'avais déjà fait des ménages. Elle n'a pas parlé de la blanchisserie, parce que d'après elle, ce n'était pas une référence. Les gens croyaient que les blanchisseries étaient des antres du vice, comme on disait, parce que les filles qui y travaillaient étaient mal polies. Madame Clydesdale a décidé que, comme j'étais robuste et en bonne santé, je ferais l'affaire. Je serais payée 24 livres par an et je toucherais mon salaire tous les mois. J'aurais un après-midi plus une soirée de congé par semaine, de 4h à 10h, et un dimanche sur deux aux mêmes heures. Je ne devais jamais rentrer après 10h sous aucun prétexte. Il faudrait que j'aie 3 robes en tissu imprimé bleu ou vert, 4 tabliers blancs à bavette et 4 bonnets, des bas et des chaussures noires à lanières. Je devais toujours dire « monsieur et madame » à monsieur et madame Clydesdale quand ils m'adressaient la parole, montrer beaucoup de respect aux domestiques de haut rang et faire tout ce que la cuisinière me dirait. À chaque fois, ma mère a répondu « oui madame » ou « non madame ». Elle a promis de ma part que je ferais tout ça. Moi, plus ça allait, plus j'étais démoralisée. Et à la fin, j'avais l'impression d'être prisonnière. Pour me dire au revoir, ma mère m'a prise dans ses bras, ce qui n'arrivait presque jamais. Chez nous, on ne montrait pas ses sentiments. Je crois que j'aurais pu hurler tellement j'avais mal. Mes parents ne s'en allaient pourtant pas à des kilomètres. Ils vivaient dans la même ville. Mais de les voir partir en me laissant dans cette maison étrangère, pour moi, c'était atroce. Je pensais, oh non, je ne vais quand même pas rester là. Et pourtant, je ne pouvais pas le dire. Je savais très bien qu'il fallait que je travaille, puisque mon père et ma mère ne pouvaient pas me nourrir. La première personne que j'ai vue, c'est une fille d'à peu près mon âge. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Marie et qu'elle était l'aide-femme de chambre. « Viens, elle a fait. Je vais t'aider à monter ta malle tout là-haut. » Tout là-haut, c'était vraiment le cas de le dire. Je n'aurais jamais cru qu'il pouvait y avoir autant de marches dans une maison. Depuis le sous-sol, il y avait un escalier de service pour les domestiques. Comme ça, on ne se mélangeait jamais avec eux. Ils ne nous voyaient jamais courir d'un étage à l'autre, ni quoi que ce soit. Et bien entendu, cet escalier ne ressemblait pas du tout à l'escalier principal. Il y avait juste du lino sur celui-là, comme chez nous. Heureusement que je n'avais pas beaucoup d'affaires. Sinon, je ne sais vraiment pas comment on aurait fait pour monter la malle jusqu'à la chambre. Quand on y est enfin arrivé, j'ai demandé à Marie « Et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» La première chose que tu fais, c'est de mettre tout de suite ton uniforme et de descendre. Et il va falloir que tu fasses quelque chose pour tes cheveux, tu peux pas rester comme ça. J'avais les cheveux très longs. Ce n'était pas encore la mode de se les faire couper. J'avais essayé de me faire un chignon pour venir travailler et maman m'avait donné un coup de main, mais il s'était écroulé parce que je n'avais pas fait assez d'épingles pour le faire tenir. Marie a dit qu'elle allait m'aider et elle a tiré tous mes cheveux en arrière. Moi qui les avais ramenés vers l'avant pour essayer d'être plus jolie. Mais Marie a été catégorique. La cuisinière ne te laissera jamais te coiffer comme ça. Quand tu as ton bonnet, il ne faut pas qu'on voit un seul cheveu qui dépasse. Donc, elle les a tous bien tirés vers l'arrière et elle m'a fait un chignon très serré en utilisant toutes mes épingles, plus une douzaine des siennes, qu'elle m'a données. J'avais l'impression d'avoir un coussin d'aiguille à l'arrière de la tête. Quand je l'ai touché, je n'ai senti que des épingles, et quand je me suis regardée dans la glace, je me suis trouvée hideuse, sans aucun cheveu autour de la figure. J'étais loin de me douter que j'allais être hideuse tout le temps que je travaillerais là, mais bon, un peu plus tôt ou un peu plus tard, quelle différence. J'ai enfilé mon uniforme. Il était sacrément moche. Et en tant que fille de cuisine, je devais le porter du matin au soir. Je ne m'habillais pas en noir dans la journée, comme celle qui bossait en haut. C'était un uniforme bleu, pas bleu marine, plutôt entre le bleu marine et le bleu pétrole. J'ai mis par-dessus un grand tablier à bavette, avec des bretelles dans le dos, qu'on boutonnait à la ceinture, et enfin le bonnet. Ce fichu bonnet, je l'ai toujours détesté. Et du jour où je suis devenue cuisinière, je n'en ai plus jamais mis. Je me suis drôlement bagarrée avec une de mes patronnes à cause de ça, mais quand j'étais cuisinière, il n'était plus question que je porte un bonnet. Une fois que j'ai été habillée, Marie a dit « Bon, maintenant on descend à la cuisine. » Quand on est arrivé en bas, c'était l'heure du thé pour les domestiques. Une aide femme de chambre y avait droit, mais une fille de cuisine, pas forcément. Je crois bien qu'un des moments les plus pénibles, ça a été quand j'ai fait la connaissance de tous les domestiques. Et pourtant, il n'y en avait pas tant que ça, comparé à d'autres maisons où j'ai travaillé après. Il y avait un majordome, une femme de service, au lieu d'un valet de pied, une femme de chambre, et une aide femme de chambre, une gouvernante, un jardinier chauffeur, la cuisinière, et moi. La première chose qu'on m'a montrée, avant même que je m'assoie pour le thé, c'était une liste de tout ce que devait faire la fille de cuisine. Quand je l'ai lue, j'ai cru qu'on s'était trompé. Il y avait bien du boulot pour 6. La liste commençait par se lever à 5h30, 6h le dimanche, descendre au sous-sol, nettoyer les conduits, allumer le feu, passer le fourneau à la mine de plomb. Soit dit en passant, pour faire ça, on n'avait pas de produit liquide dans une jolie boîte, on avait un vieux morceau tout dur de mine de plomb qu'il fallait mettre dans une soucoupe avec de l'eau avant de se coucher le soir. Comme ça, il trempait toute la nuit pour donner une espèce de pâte qu'on pouvait passer sur le fourneau. Moi, je ne savais pas tout ça. Le lendemain matin, j'ai essayé de me servir du morceau de mine de plomb. Je croyais qu'il fallait frotter le fourneau avec. Personne ne m'avait rien dit. Tout le monde partait du principe que je savais, je me demande bien pourquoi. Après, je devais briquer au papier de verre le pare-feu en acier, qui, sans exagérer, faisait bien 1m20 de long. Et les accessoires de cheminée. Une énorme pelle, des pincettes et un tisonnier en acier. Je devais aussi astiquer les décorations en cuivre de la porte d'entrée, récurer les marches du perron à la brosse, nettoyer toutes les chaussures et mettre la table du petit déjeuner pour les domestiques. Tout ça, il fallait que ce soit fait avant 8h du matin. Et ce que je devais faire pendant le reste de la journée, après le petit déjeuner, ça faisait une de ces listes, je n'en avais jamais vu une aussi longue. Alors, entre l'uniforme, le bonnet, mes cheveux et la liste, quand en plus Marie m'a dit « Viens prendre le thé et faire la connaissance de tout le monde », j'ai vraiment cru qu'il ne pouvait rien m'arriver de pire. J'étais au fond du trou. Je me suis demandé comment ma mère avait pu me faire venir ici en m'assurant que maintenant c'était mieux, que le boulot était moins dur, qu'on avait plus de temps libre et qu'on était mieux considéré. Je suis donc entrée dans la salle des domestiques et quand je dis que j'ai fait leur connaissance, n'allez pas croire qu'on m'a présenté. Personne ne se donne la peine de présenter une fille de cuisine. Ils m'ont juste regardée comme une bête curieuse. Quelqu'un a dit « Elle a l'air assez costaud ». Et croyez-moi, ça tombait plutôt bien que je sois costaud. Je me suis assise pour le thé et je ne sais vraiment pas comment j'ai fait pour manger avec tous ces regards fixés sur moi.
I was having a good day. That shy day started me off. MTA was on time with my train. Ain't nothing like the sound of New York. Then I got down to my job. They ain't had my money right. 40 hours overtime. Bitch, it's about to be a fight. Woo. Need a wash and sit, but my hairstyle is on the flight. So I'ma take my ass home. Oh, somebody die tonight, I'm saying.
Don't fuck with me. Don't fuck with me. Don't fuck with me.
Look, my no hands broke my foot off in they ass, cause they kept playing. Bitch, look, my no hands broke my foot off in they ass, cause they kept playing. Seen a black man catch a cab today. And lovers get them married by law.
hear the sirens flashing lights in our face. Ain't nothing like the smell of New York. Then I walked up to my building, police said I can't come in. Head down in handcuffs, they done got my boyfriend. Nosy neighbors on the stoop, asking me what did he do. Judging me like I'm on stand. So I raised my right hand and told him, off in they ass cause they kept playing. Bitch, look, my no hands. Broke my foot off in they ass cause they kept playing.
Don't fuck with me. Tout un côté de la pièce était occupé par le fourneau. Et je suis restée là à le regarder bouche bée. On en avait un à la maison, mais ma mère ne s'en servait jamais pour faire à manger. Elle avait une gazinière pour ça. Dans cette cuisine-là, il n'y avait pas de gazinière. Juste cet énorme fourneau qui allait devenir un cauchemar pour moi, même si je ne le savais pas encore. Il avait un four à chaque bout, un grand et un petit. Et il avait été tellement bien briqué à la mine de plomb par la fille de cuisine d'avant qu'on pouvait presque se voir dedans. Quand c'est moi qui l'ai astiqué par la suite, il n'était jamais comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Comme disait la cuisinière, il y a des gens qui savent frotter et d'autres pas. Devant, il y avait le pare-feu en acier et lui aussi, il brillait tellement qu'on aurait dit de l'argent. En face, il y avait un buffet avec de très grands placards de rangement en bas et 5 étagères en haut, tout en bois blanc massif. Rien à voir avec le petit buffet qu'on avait chez nous. Celui-là pouvait contenir un service de table complet. Et quand je dis un service complet, je ne parle pas de ceux qu'on achète maintenant et qui sont en fait des demi-services. 126 pièces de porcelaine étaient alignées sur les étagères. Sur le bas de buffet, au-dessus des placards, donc, il y avait en plus une énorme soupière, des légumiers et des saucières. Et moi, c'était marqué sur la liste, il fallait que, une fois par semaine, je sorte toutes ces pièces de vaisselle, que je les lave une par une et que je nettoie le buffet à fond. Le troisième mur avait 2 portes. Dont une pour aller à la salle des domestiques. Quand on était en train de manger dans cette pièce-là, ce qui était très rigolo, c'était de regarder les jambes des passants dans la rue et d'imaginer la tête qui allait avec. Si on voyait passer une paire de grosses jambes, on disait « Celle-là, elle a bien 50 piges. » Et quelqu'un répondait « Oh non, celle-là, ou bien elle est courte sur pattes, ou bien elle a une maladie. » Soit dit en passant, je me suis toujours demandé pourquoi on appelait ça la « salle des domestiques ». Ce n'était pas grand comme une salle, c'était juste une pièce normale. Mais partout où je suis allée, la pièce où on pouvait s'asseoir s'appelait la salle des domestiques. La 2e porte conduisait à l'office du majordome. Là, il y avait 2 éviers, un pour laver l'argenterie au savon et l'autre pour la rincer à l'eau claire et laver des verres. Le majordome et la femme de service s'occupaient à eux deux des verres et de toute l'argenterie, sauf des couteaux. Ça, c'était le boulot de la fille de cuisine. Le 4e mur avait une autre porte qui donnait sur un immense couloir avec un sol en pierre. Ce couloir, il reliait la porte de derrière à la cuisine. Au mur, il y avait toute une rangée de sonnettes avec des étiquettes au-dessus pour indiquer d'où ça venait. Et chaque fois que j'en entendais une, j'étais censé courir à fond de train jusqu'au couloir pour voir laquelle c'était. On avait aussi un système de sifflets. Il fallait retirer du mur une espèce de bonde et siffler dedans vers les différentes pièces du haut pour essayer de choper une bonne et lui dire qu'on la demandait. Quand je ne courais pas comme une dératée, la sonnette s'arrêtait avant que j'arrive, si bien que je ne savais pas du tout si ça venait du salon bleu, du salon rose, de la 1ère chambre, de la 2e, de la 5e, du grand salon ou de la salle à manger. Dans ces cas-là, je revenais à la cuisine en disant « Je ne sais pas quelle sonnette c'était ». Et la cuisinière me répondait « Il faut que tu cours plus vite que ça, sinon ça va barder là-haut ». Mais qu'est-ce que je pouvais y faire ? Quand j'étais en plein milieu d'un travail, je ne pouvais pas le laisser tomber comme ça, à la seconde. Au début, j'ai eu des tas de problèmes avec ces sonnettes, mais à la fin, je maîtrisais la technique, et pour sortir en trombe de la cuisine, j'étais championne. Dans la cuisine elle-même, par terre, c'était de la pierre, mais pas des belles dalles brillantes comme on voit maintenant. Plutôt des espèces de grosses briques, et il fallait les récurer tous les jours. La table de la cuisine faisait toute la longueur de la pièce. C'était un gros machin très lourd avec 4 pieds carrés, les pieds les plus énormes que j'ai jamais vus. Et à force d'être frottée, elle était devenue tellement blanche qu'elle aurait rendu jalouse n'importe quelle poudre à récurer d'aujourd'hui, alors qu'à l'époque, on n'avait que du savon et de la soude. C'était la table de la cuisinière. Et Marie m'a annoncé que je devais la préparer. Elle m'a demandé « Tu sais préparer une table de cuisinière, au moins ?» J'ai répondu « Oui, je sais quels ustensiles il faut pour cuisiner. » Mais à vrai dire, je ne savais pas du tout. Moi, tout ce que j'ai sorti, c'est un couteau, une fourchette et une cuillère, la farine, le sel et une passoire. Je croyais qu'elle n'avait pas besoin d'autre chose pour préparer le dîner. Heureusement pour moi, Marie est arrivée à ce moment-là. Elle a piqué un fou rire en m'expliquant que ce n'était pas du tout comme ça qu'il fallait préparer la table de la cuisinière. Et puis elle a dit « Je vais te montrer avant que Mrs. McIlroy revienne. » Ce n'est pas qu'elle rouspéterait, mais sûr qu'elle rigolerait en voyant ce que tu as sorti. Et elle a commencé à disposer sur la table des couteaux de toutes sortes, de toutes les formes et de toutes les tailles, des couteaux à découper très longs, des petits pour éplucher les fruits, des spatules, certaines recourbées pour gratter l'intérieur des bols, et environ 6 cuillères en métal, pas le modèle ordinaire, des énormes qui avaient la couleur de l'aluminium. Sur les plus grandes, il y avait les doses de marquer. Ça allait de l'once à la cuillère à dessert. Elle a sorti 2 tamis, un en crin et un métallique, plus un pour la farine, et aussi un fouet. Bien entendu, les fouets électriques n'existaient pas en ce temps-là. En fait, même le modèle avec une petite roue n'existait pas. On battait les œufs à la main avec un bidule en métal. Il y avait aussi 2 râpes différentes. Une fine pour la noix de muscade et une pour la chapelure. Une grande planche à découper et une petite. Du paprika et du piment de Cayenne, du sel ordinaire, du poivre et du vinaigre. Ça couvrait la moitié de la table. Tout ce matériel devait être sorti 2 fois par jour. Pour le déjeuner, qui ne comportait pourtant que 3 plats, et pour le dîner, qui en comportait 5 ou 6. Quand j'ai vu tous ces ustensiles, j'ai dit à Marie « Elle ne se sert quand même pas de tout ça. » Elle a répliqué « Oh, mais t'as encore rien vu. Dans cette maison, dès le début du dîner, tu seras en train de courir dans tous les sens pour essuyer certains trucs parce que la cuisinière s'en sera servie une fois et qu'elle en aura encore besoin. Il y en a qu'elle utilise 2 ou 3 fois par repas. » Je n'ai pas tardé à m'apercevoir que c'était vrai. Vous êtes toujours sur La Locale, 97.3 à Saint-Girons, dans l'émission La Fille à la Fenêtre. Donc pour cette émission, à part les livres que je vais vous lire, je me base sur 2 livres qui s'appellent Le Travail et la Vertu de Catherine Blunden et La Place des Bonnes d'Anne Martin Fugier. Donc je vais essayer de faire un espèce de petit historique de la domesticité féminine. Parce que en fait, j'ai découvert que au Moyen-Âge et jusqu'au milieu du XVIIe siècle, la majorité des domestiques, dans les grands domaines, c'était des hommes. Et toujours jusqu'au XVIIe siècle, les serviteurs n'étaient pas d'un rang social très bas. C'était des personnes qui étaient d'un rang social juste un peu inférieur de ceux des personnes qu'ils servaient. Il n'y avait pas une distinction très très nette entre le rôle de serviteur personnel, le rôle d'employé professionnel ou le rôle de vassal tout simplement. Les tâches de ces personnes étaient variées, elles changeaient au gré de la vie et au gré des besoins. Et les serviteurs vivaient très proches de leur maître. Ils couchaient au pied du lit, par exemple. Ils pouvaient être très maltraités, ils pouvaient toujours être battus et tout ça, mais ils vivaient vraiment avec leur maître, ils partageaient leur vie. Et donc au Moyen-Âge, la culture chevaleresque disait qu'aucun service n'était dégradant tant qu'il était accompli pour mieux né que soi. Et en fait, l'émergence des domestiques tels qu'on les imagine et tels qu'on les connaît, il est parallèle à l'apparition des classes moyennes. Et il a lieu à partir de la fin du XVIIIe siècle avec la Révolution industrielle. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la fin du XVIIIe siècle ? La Révolution industrielle permet à des hommes de s'enrichir très vite, dans le domaine du commerce, des banques, des manufactures, ou aussi dans la spéculation, tout simplement. Et donc, c'est des hommes qui vont sortir du milieu social dont ils proviennent, qui peut être de milieu de petits artisans, petits paysans, ce genre de choses. Et donc, en fait, ils vont arrêter de travailler avec leurs mains. Ils vont passer à faire du travail de col blanc, en fait, comme on pourrait dire maintenant. Et donc, comme ils vont s'élever dans l'échelle sociale, ils vont vouloir se rapprocher de l'aristocratie et des propriétaires terriens qui, eux, vivent sans travailler depuis très longtemps, qui vivent du travail de leurs serfs, puis des paysans qui travaillent pour eux. Dans ces classes moyennes-là, ça va être possible qu'il n'y ait plus qu'une seule personne de la famille qui travaille. Ça va être seulement l'homme. Et donc, il va travailler dans un bureau, il va diriger une usine, il va travailler dans une banque, il va exercer une profession libérale. Donc, en fait, c'est l'apparition de tous ces métiers-là aussi, elle se date au XVIIIe siècle. Et donc, peu à peu, il va interdire à sa femme de travailler. Et donc va naître ce modèle de la femme au foyer dont on a déjà parlé dans l'émission numéro 5 de La fille à la fenêtre, que vous pouvez trouver en ligne sur Internet, sur le site de La Locale ou sur le site de radiorageuse.net. Et donc, embaucher des domestiques, c'était une manière de montrer son statut social. Dans les familles bourgeoises les plus pauvres, on allait même jusqu'à s'affamer pour embaucher une bonne à tout faire. Et même si on dépensait de l'argent que les femmes et les filles auraient pu, dont elles auraient pu avoir besoin en cas de décès du père ou du mari, parce que elles, c'était hyper mal vu qu'elles travaillent. Dans les couches les plus basses de la bourgeoisie, les épouses, les mères et les filles, elles vont continuer à accomplir certaines tâches, mais c'est des tâches qu'elles vont cacher, parce que ce sera mal vu. On peut voir par exemple dans les romans de Jane Austen, où souvent elle parle d'héroïnes pauvres de la bourgeoisie qui doivent repriser le linge ou alors travailler dans le potager, travailler avec les poules. Mais ça, c'était très mal vu par leur milieu social. Donc à partir du 18e et tout au cours du 19e siècle, les bourgeois vont faire beaucoup de sacrifices financiers pour se désengager physiquement des activités domestiques. Et donc au 18e siècle, il semblerait que les domestiques étaient pour moitié des hommes, pour moitié des femmes. Et à la fin du 19e siècle, la profession est féminisée à 90%. C'est la première branche d'emploi féminin avant la couture. Donc par exemple, Catherine Blunden, qui parle de l'Angleterre dans son super livre « Le travail et la vertu » dont je vous parle depuis au moins trois émissions, là, elle dit qu'en 1851, 90% des femmes sont dans un foyer, que ce soit le leur ou celui de leur patronne. Parce que tout au long du 19e siècle, le modèle bourgeois de la femme au foyer se renforce. Les femmes appartiennent à l'espace de la maison. On avait vu dans la première émission qu'avant l'émergence de l'État moderne, avant le moment de la chasse aux sorcières, les femmes étaient beaucoup plus dans l'espace public. Et donc, qu'est-ce qui se passe aussi au 19e siècle ? Les ouvrières, parce que les femmes travaillent dans les usines depuis les débuts de la révolution industrielle, elles sont stigmatisées, elles sont de plus en plus mal vues. Or que ce soit les bourgeois, que ce soit les femmes de bourgeois, que ce soit les syndicalistes, les socialistes, tout le monde les critique. On les accuse d'être sales, d'être viles, d'avoir une mauvaise moralité, etc. On en parlera dans une autre émission. Les femmes qui ont des maris, qui ont plus d'argent, elles n'ont pas le droit de travailler. Donc qu'est-ce qu'elles font les femmes pauvres, hein, finalement, vu que c'est mal vu d'aller travailler à l'extérieur ? De plus en plus, elles vont devenir domestiques. Jusqu'au moment où elles vont trouver un mari, si elles en trouvent un. Et donc à ce moment-là, elles vont soit devenir femme au foyer, parce qu'en fait le modèle de la femme au foyer, il va s'installer dans quasiment toutes les couches de la société vers la fin du 19e siècle, ou alors elles vont rester domestiques toute leur vie, et elles vont jamais se marier. C'était très rarement accepté, les mariages entre domestiques. Et de toute manière, comme on habitait chez son maître, on pouvait pas avoir de vraie vie à soi, quoi. Et c'était un travail où, censément, on pouvait garder sa respectabilité. Pardon. Parce que les filles d'usine, souvent, elles étaient très mal vues. On était censé pouvoir garder sa respectabilité, mais d'un autre côté, les bonnes étaient considérées comme un corps disponible sexuellement pour les maîtres. Donc elles étaient violées, certaines avaient des relations forcées pendant des années avec leurs maîtres. Mais évidemment, si elles tombaient enceintes, elles étaient renvoyées. Et donc, c'est un emploi où on dormait sur place. Et au départ, je pense tout au cours du 19e siècle, il y avait à peine... je pense qu'il y avait, au départ, c'était une journée de congé par mois, si même il y en avait. Alors après, au début du 20e siècle, les gens de maison, comme ils s'appelaient eux-mêmes, ont commencé à se syndiquer. Et là, à partir de là, ils avaient une après-midi de congé par semaine, mais après, c'était pas toujours le cas. Et on pouvait travailler jusqu'à 17 heures par jour, ce qui nécessitait donc, en fait, une grande endurance physique. Après, il y avait plein de problèmes de maladies, de tuberculeuse et tout ça. Bon, je vous passe les détails. Comme le dit si bien Catherine Blunden, la fragilité féminine a un seuil, celui des classes sociales, qui est l'emploi des domestiques. Donc, on a vu dans l'émission... numéro 6, si je me rappelle bien, que les femmes bourgeoises devaient être faibles, qu'elles étaient entretenues dans un espèce d'état malade, et au contraire, les femmes prolétaires, elles étaient considérées comme des bêtes de somme. Donc on comprend bien que la soi-disant faiblesse des femmes, elle est construite, elle est sociale. Au-delà de ce seuil où on peut embaucher des domestiques, les filles sont censées être assez fortes pour soutenir un travail épuisant, qui comprend le port de charges très lourdes, comme la nourriture, l'eau, le charbon. À travers des escaliers et des couloirs, elles sont censées être assez résistantes pour faire face à des journées plus longues que n'importe quel horaire d'usine, 17 ou même 18 heures par jour. Et si elles ont des moments de loisirs, elles doivent faire des travaux de couture pour leurs employeurs. Donc on comprend bien que le travail de domestique, femme de chambre, bonne à tout faire, etc., c'est pas un emploi qui est traditionnellement féminin. En fait, c'est un modèle qui est issu du bouleversement qui a été causé par la révolution industrielle. Qu'est-ce qu'elle exige, cette révolution industrielle ? Elle exige l'oisiveté des femmes bourgeoises et la domestication des classes laborieuses. Et donc on a vu qu'avant, les domestiques, c'était des corps qui étaient proches de leur maître. Et en fait, ils vont devenir des corps à cacher, des corps qu'il faut éloigner, des corps qu'il faut invisibiliser. Et on pourra, parfois, ils vont être tellement indifférenciés, tellement interchangeables, qu'on va aller jusqu'à leur donner un prénom correspondant à leur poste. Par exemple, telle famille va avoir une cuisinière qui va tout le temps s'appeler Marie. Donc ils vont rebaptiser toute leur cuisinière Marie, même si elle s'appelle autrement. Et en fait, pour la toute petite bourgeoisie, ces domestiques qui sont des prolétaires, eh ben, ils représentent un passé trop proche. Et donc, c'est un passé qu'il faut tenir à distance. Parce que comme dans cette économie capitaliste en pleine expansion, il y a une spéculation absolument délirante et il y a tout le temps des crises économiques avec des gens qui font faillite et tout ça. Et en fait, il y a des familles de nouveaux riches, en fait, risquent, mais pas que les nouveaux riches, risquent de retomber dans la misère à tout moment et donc se retrouver finalement au même statut social que leurs propres domestiques. Du coup, on pourrait presque dire que plus la servante est socialement proche de ses maîtres, plus elle risque d'être maltraitée, en fait. Parce qu'on les regarde comme quelque chose de trop proche, donc il faut les mettre à distance le plus possible. Et après, un autre aspect qui est intéressant à regarder, c'est qu'avec la révolution industrielle est arrivé le découpage du temps dans la vie des gens, en fait. L'horloge se démocratise à ce moment-là, le temps est rationalisé, on introduit le pointage à l'usine, et d'ailleurs au début du 19e siècle, il va y avoir des révoltes d'ouvriers contre le fait que l'horloge arrive à l'usine. Et en fait, cette rationalisation du temps, elle va aussi arriver dans la maison, dans le foyer, qui va devenir une espèce de maison-usine. C'est Catherine Blunden qui parle de maison-usine. Et donc, la vie de la maisonnée, elle aussi, va devoir se soumettre à un emploi du temps minutieux. On voit bien là Margaret Powell qui dit « je dois me lever à 6 heures, avant 8 heures, je dois avoir fait toutes ces tâches, etc. » Et donc... C'est aussi le 19e siècle qui voit arriver l'organisation rationnelle des tâches dans l'espace domestique et le fait que les tâches des domestiques soient décomposées en plein de petites tâches et que à telle personne soit aussi dévolue telle tâche. C'est aussi la grande mode des manuels ménagers à cette période-là. Et donc ils sont aussi à l'origine de l'apparition du budget. Donc en fait, les maîtresses de maison doivent gérer un budget Et ce budget va marquer la coupure finalement entre un modèle familial avant où on avait une espèce d'économie domestique, où on produisait soi-même tout, comme on a vu dans l'émission 5 où on parle de la femme au foyer de l'époque élisabéthaine du XVIe siècle qui va tout produire, qui va elle-même vendre les produits qu'elle a fait sortir, et donc qui va être finalement à la tête d'un modèle de production. Les nouvelles maîtresses de maison, en fait, elles n'ont plus aucune prise sur leur vie. Elles se retrouvent juste à devoir gérer la somme d'argent que leur donne leur mari sous forme d'un budget et uniquement consommer. Acheter des produits et les consommer directement, quoi. Elles produisent plus rien. C'est des femmes qui ont une vie régie par un ordre social rigide, qui sont maintenues dans une ignorance totale par rapport à la situation financière de leur mari, etc. Mais en fait, dans tous les manuels ménagers qui leur sont consacrés, on parle de l'emploi du temps, et donc c'est comme si la maison devait prendre l'apparence d'une machine, quoi. Les domestiques doivent demeurer invisibles, comme des rouages, ils suivent un circuit parallèle qui passe par des escaliers de service, ils commencent à travailler avant l'aube, et ils finissent de travailler très tard le soir. Et parfois, les domestiques, eh ben, ils connaissent même pas leur employeur de vue. Donc, pour citer Catherine Blunden, elle dit « La maison-usine a aussi ses bras, à l'image industrielle, fort, spécialisé, discipliné, interchangeable. » Et donc, c'est des bras interchangeables à qui on va inventer des tâches pour justifier leur existence, finalement. Laver toutes les semaines d'énormes services de porcelaine, même s'ils ne sont pas utilisés, briquer le perron tous les jours, faire les cuivres tous les jours, allumer des feux dans des pièces à peine utilisées, etc. etc. Et la maison bourgeoise du 19e siècle, donc c'est une maison-usine que doit régir une maîtresse de maison qui doit donner l'air d'être inactive. Alors c'est une contradiction, parce qu'en fait, vers l'extérieur, elle doit donner l'air d'être inactive, mais en même temps, on lui dit qu'elle doit gérer sa maison comme un espèce de chef d'entreprise. Et en même temps, il faut qu'elle gère des visites, qu'elle gère les relations sociales de son mari, etc. Et en fait, son rôle uniquement, c'est de maintenir le prestige social de son mari. Et donc, les domestiques, ils sont là pour démontrer finalement un statut social, quoi. Il y a plein de normes d'hygiène et des tâches ménagères qui ont été créées uniquement pour que les domestiques aient une activité et pour que les maîtresses de maison aient aussi une activité à les diriger et à les surveiller. Et donc je vais finir cette petite présentation, cette histoire des domestiques au XIXe siècle sur une citation de Catherine Blunden qui dit « Pourquoi mécaniser, simplifier, tant que le nombre de domestiques est un facteur de prestige ? Il faut bien les employer à quelque chose. » Oui, c'est ça que je voulais dire. Il y a aussi une partie qui est intéressante dans ce livre, mais j'ai pas le temps de m'attarder là-dessus aujourd'hui. C'est qu'en fait, elle dit qu'au XIXe siècle, tout était là, d'un point de vue technique, pour produire des appareils ménagers, en fait. C'est-à-dire des trucs équivalents de l'aspirateur ou du fer à repasser ou des choses comme ça. Et qu'en fait, ça a beaucoup tardé leur introduction parce que les domestiques étaient là pour le faire et qu'il y avait une nécessité sociale à l'existence des domestiques. Et en fait, à partir de la crise de la domesticité, on en parlera un peu à la fin, au début du XXe siècle, quand il y a de moins en moins de domestiques qui sont embauchés et que finalement les bourgeoises doivent faire ce travail-là à leur place, eh ben, c'est là que vont se développer des appareils ménagers, mais sur un mode individuel. Et c'est aussi intéressant de voir qu'il y a plein de femmes qui ont écrit au XIXe siècle pour demander une prise en charge publique et collective, finalement, du travail ménager. En fait, ça, il faudrait consacrer une émission entière à ce truc-là. Et qu'en fait, ça n'est jamais arrivé. Et qu'en fait, sont arrivés ensuite des appareils ménagers sous forme individuelle pour que les femmes restent seules dans leur foyer à faire le ménage.
I'm
Vous êtes bien sur la locale 97.3 à Saint-Giron, dans La Fille à la Fenêtre. On va partir ensuite en Suisse, dans les années 1920-1930. C'est un texte qui est extrait d'un livre qui s'appelle « Pipe de terre, pipe de porcelaine » de Madeleine Lamouille. Je vais vous en parler un peu après. Quelque temps après la mort de mon père, deux de mes frères sont venus à Genève pour faire leur apprentissage chez mon oncle, qui avait un petit établissement d'horticulture au chemin de la Roseraie. Ils ne se plaisaient pas du tout à Genève, et mon oncle, qui n'avait pas d'enfant, avait un peu de peine à les supporter. Alors j'ai écrit à mon oncle. « Si c'est si pénible pour vous, je vais me chercher une place à Genève, comme ça je serai là pour m'occuper de mes frères, dans la mesure de mes possibilités. » Je l'ai dit à Madame B. Elle a très bien compris. « Vous allez chercher une place de femme de chambre ?»« Oui, parce que c'est ce que je sais faire. Je vais aller dans un bureau de placement. » »« Non, il n'en est pas question. C'est moi qui vais vous chercher une place, parce que je veux que vous travailliez dans une famille aristocratique de Genève. » Non, je n'y tiens pas spécialement. Mais si madame veut s'en occuper. À ce moment-là, je n'étais pas comme je suis maintenant. J'étais un peu timide et il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Je l'ai donc laissée me chercher une place. Elle m'a proposé des places chez ses nièces, mais j'ai dit non, j'aime mieux changer un peu. Je veux aller dans une autre famille. Marie, la tante de mon futur mari, était alors cuisinière à Genève, chez Madame W, qui cherchait une femme de chambre. Elle était amie avec une personne qui était cuisinière chez la nièce de Madame B. Marie avait dit à son amie « On cherche une femme de chambre. » Il y en a une à Valère qui veut aller à Genève, mais elle ne veut pas aller dans une famille B, ni dans une famille alliée, parce qu'elle veut changer. Ça ferait peut-être notre affaire, mais si elle sort de cette famille B, elle voudra peut-être pas tout faire, elle voudra pas faire une chambre à fond. Tout de même, elle en a parlé à Madame W. J'aurai quelqu'un à proposer à Madame, qui vient de chez les B de Valère-Sourance. Alors ça a beaucoup plu à Monsieur W. J'étais sûrement une femme de chambre très stylée, puisque je venais, ils étaient tous plus fous les uns que les autres, d'une famille aristocratique. Ça lui plaisait. Ils sont venus jusqu'à Valère pour m'engager. C'était au moment des vendanges. Il y avait partout des chars, des brandes, des vendangeurs. C'était très gai. Madame m'avait dit « Vous recevrez ce monsieur et cette dame au grand salon. Mais je ne veux pas les voir. » Elle ne voulait pas dire bonjour à des bourgeois. Monsieur avait dit « Si je les vois devant la maison, je leur dirai bonjour. » À leur arrivée en voiture, il leur avait dit quelques mots aimables dans la cour. Puis ils étaient venus au salon, dans cet immense magnifique salon. J'étais seule avec monsieur et madame W. Je me suis engagée. Il me donnait le même salaire, 80 francs par mois. Madame ne m'a pas posé beaucoup de conditions. Elle ne m'a pas dit grand-chose. Elle était très timide. Monsieur non plus n'a pas dit grand-chose, autant que je me rappelle. D'avance, il me trouvait parfaite, parce que je sortais de cette famille. Alors je suis venue à Genève. C'était au début de novembre 1931, j'avais 23 ans. Mon frère Gaston, qui avait 15 ans et qui faisait depuis quelques mois son apprentissage chez mon oncle, est venu me chercher à la gare et on m'a accompagnée chez les W, aux tranchées. J'étais mal habillée, comme toujours, avec des habits que m'avaient donnés les demoiselles B. À ce moment-là, je ne savais pas encore les mettre à ma taille. Je ne savais pas encore ce que j'ai su faire quelques années plus tard. Enfin, j'étais très mal fagotée. J'avais un manteau beige qui m'allait très mal. J'ai donc pris la ceinture avec mon frère, qui m'a accompagnée jusque devant la porte des W, au deuxième étage. Là, il me dit « Je rentre à la maison. » Je ne veux pas attendre qu'on ouvre parce que j'ai peur de ces gens. » Et il descend les escaliers à toute allure. Marie est venue m'ouvrir. « Qu'est-ce que vous vendez, mademoiselle ?» Elle m'avait prise pour une colporteuse. « Je ne vends rien. Je suis Madeleine. Je suis engagée chez monsieur et madame W. Ah, c'est vous la nouvelle femme de chambre. » Elle n'en revenait pas tellement j'étais fagotée. Elle m'a fait entrer. Une fois que j'ai été un peu déshabillée, j'ai tout de suite mis ma robe noire. C'était comme ça qu'on commençait son travail. On vous mettait dans votre chambre, on vous disait « Mettez votre robe noire ». Les patrons nous payaient notre robe noire, notre tablier de maison. Je crois que c'était la coutume. J'ai mis mon tablier blanc, je suis descendue. Marie m'a trouvé mieux. On s'est tout de suite très bien entendu. Marie qui était dans la maison depuis 26 ans et moi qui venais d'arriver. Assez vite, je lui ai dit « Marie, vous travaillez beaucoup trop pour une cuisinière, vous en faites trop. Vous n'avez pas à vous occuper des chambres, c'est mon affaire. Vous ne vous rendez pas compte du travail qu'il y a. Je suis bien obligée de vous aider, parce que sinon vous n'y arriverez pas. » Moi, j'avais une grande habitude du travail. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait trop à faire, même en la déchargeant de certaines tâches. Elle a encore dit « Il faut voir si madame est consentante. » Qu'elle soit consentante ou pas, le travail de femme de chambre, c'est mon affaire, c'est moi qui dois le faire. J'étais arrivée en fin de matinée. Mon premier choc, c'est que personne ne m'a touché la main. Personne ne m'a dit « Bonjour mademoiselle, vous avez fait bon voyage ?» Rien. Ni monsieur, ni madame. Rien du tout. On m'a tout de suite mise à mon travail. Le soir, Marie m'a expliqué ce que j'avais à faire. Monsieur prend de la camomille tous les soirs. Sur le coup de 9h, vous lui porterez son plateau au salon. Alors j'ai pris le plateau, je suis allée au salon et j'ai dit « Bonsoir, messieurs, dames », comme je faisais chez les B. Ils se sont tous regardés stupéfaits. Il y a eu un moment de silence. Enfin, ils ont dit « Bonsoir, Madeleine ». J'ai déposé mon plateau et je suis sortie. Arrivée à la cuisine, j'ai dit « C'est drôle, je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé au salon ». J'ai dit « Bonsoir, messieurs, dames ». Ils avaient l'air interloqués. Marie m'a répondu « C'est qu'ici, on ne salue pas les bonnes. On ne se dit jamais ni bonjour ni bonsoir. Pas même le jour de Noël ou le jour du Nouvel An. Rien, jamais. Il n'y a que les enfants qui nous disent bonjour. Si c'est comme ça, je ne reste pas là. Non, je ne veux pas. » Après le travail, le soir, j'ai demandé « Qu'est-ce qu'il y a à lire ici ? Le journal de Genève, je pense ?» Remarquez qu'à ce moment-là, je n'étais pas contre, je ne savais pas, je n'avais pas encore réfléchi à ces choses. J'ai demandé si on pouvait lire les journaux parce qu'à Valère, on nous les apportait tous les soirs à la lingerie. Ici, ils ne nous donnent pas les journaux. Madame dit qu'à la cuisine, on a les mains sales. Les journaux, ça sert à mettre dans les armoires et à faire du papier de cabinet pour les bonnes. Marie lisait le journal de Genève en cachette le matin en faisant le salon. Mais où est-ce que je suis tombée ? Non, je ne reste pas là. Et puis on n'avait pas de vin. Chez les B, on avait tout le vin qu'on voulait. On en buvait un demi-verre à chaque repas. Mais on y tenait beaucoup. Pas de vin, pas de fruits à midi. En somme, j'étais beaucoup moins bien nourrie que chez les B. Cela ne me gênait pas tellement. Ce qui m'ennuyait, c'était que les patrons ne nous disaient pas bonjour et ne nous donnaient pas les journaux. Les B ne nous aimaient sûrement pas. Mais ils avaient une certaine considération pour leur personnel. Ils nous traitaient bien. Madame nous causait, par exemple. Madame W, elle, ne m'a pas adressé 10 paroles dans sa vie, sinon pour les besoins du service. Je n'ai jamais eu de conversation avec elle, pendant 6 ans que j'ai été sa femme de chambre, avec monsieur encore moins. Sauf pour ses commissions de téléphone, c'était tout. Il disait merci quand on lui posait son plateau. Sinon, pas un mot. Quand le père de Marie est mort, Marie avait demandé congé pour aller l'enterrer dans son village en Savoie. Madame lui avait répondu « Mais qu'est-ce que je vais devenir sans ma cuisinière ?» En somme, nous étions uniquement des machines à travailler et nous étions traités comme telles. Au bout d'une 15aine de jours, j'ai dit à Marie que je voulais chercher autre chose, aller au bureau de placement. Elle n'était pas d'accord. « On s'entend bien, je vous aime déjà beaucoup et vous me soulagez dans mon travail. C'est appréciable pour moi parce qu'il y a des jours que je suis très fatiguée. Je vais parler à madame et lui dire tout ce qui ne vous convient pas dans la maison. » « Vous savez, Marie, je n'ai pas besoin de vous, je peux le faire moi-même. »« Non, c'est moi qui vais le dire et j'en profiterai pour dire à madame un tas de choses que j'ai sur le cœur. » C'est ce qu'elle a fait. Madame a accepté tout ce que je demandais. « Bien, on vous donnera les journaux et vous achèterez du vin pour Madeleine. » Après, à moi, on me disait bonjour. Je portais le café de monsieur, je passais la porte, je disais « Bonjour monsieur » et il me répondait « Bonjour Madeleine », convenablement. Et madame de même. Pour autant, ils ne se sont pas mis à dire bonjour à Marie. Elle ne s'était jamais plainte. Mais elle aussi, à son arrivée dans la maison, elle avait trouvé ça drôle. Elle en avait parlé à une amie qui travaillait chez la mère de Madame W. Cette amie, Joséphine, lui avait dit « Il ne faut pas leur dire bonjour, ils n'y tiennent pas ». Elle lui avait raconté qu'une nouvelle femme de chambre portant pour la première fois le déjeuner à monsieur lui avait dit « Bonjour monsieur ». Il s'était contenté de répondre en tapant des deux mains sur la table. « Café, café !» Elle a compris que dans cette maison, on ne se disait pas bonjour. On n'était pas maltraités, mais ça, c'était des choses que je ne peux pas admettre. Je ne sais pas comment Marie a pu l'accepter pendant si longtemps. Ou plutôt, je le sais. C'est qu'à ce moment-là, c'était difficile de trouver du travail. Et par la suite, elle s'est beaucoup attachée aux enfants. Tous les patrons n'étaient pas comme les nôtres. Madame B, qui habitait Sierne et qui était l'amie de Madame W, causait beaucoup avec ses bonnes. Elle revenait d'un thé, elle leur racontait tout ce que ces dames avaient dit. Elle parlait à ses bonnes, tandis que Madame W n'engageait jamais la conversation avec nous. Je ne sais pas si c'était par timidité ou si c'était par éducation. Elle avait été élevée par une mère qui était un véritable dragon. Un jour que celle-ci se promenait dans la campagne, sa petite fille lui avait fait cette réflexion. « Oh, bonne maman, ces moissonneurs, ce qu'ils doivent avoir chaud !»« Mais non !» avait-elle répondu. « Mais non, ils ne sentent rien, ils ont la peau dure. » Voilà comment elle parlait. Cela me fait penser à une histoire qu'on m'a racontée et qui se passe en Italie. Deux dames sont en conversation dans leur salon. L'une dit « Il y a autant de différence entre nous et les femmes du peuple qu'entre une pipe de terre et une pipe de porcelaine. » Puis elle demande au valet de chambre, qui a tout entendu, d'aller chercher sa fille pour la présenter à son invité. Le valet de chambre appelle la bonne d'enfant et lui dit, bien fort, de façon à être entendu, au salon. « Pipe de terre, amenez la pipe de porcelaine. » Donc c'était un extrait d'un livre qui s'appelle « Pipe de terre et pipe de porcelaine, souvenir d'une femme de chambre en Suisse romande, 1920-1940 », publié par Luc Weibel et donc écrit par Madeleine Lamouille. Alors en fait, c'est un livre qui a été écrit à quatre mains. C'est-à-dire qu'à la fin du livre, il y a une postface où Luc Weibel, ce monsieur, c'est le petit-fils des personnes horribles dont nous parle cette dame. Et en fait, lui, elle l'a élevé, en fait, parce qu'elle est restée un peu chez ses grands-parents. Et donc, quand il allait les voir, c'était elle qui s'occupait de lui. Et donc, il est resté en contact avec cette femme et il lui a demandé de raconter sa vie. Et il y a une postface à ce livre qui est vraiment très belle, où il explique comment ils ont fait, en fait. Ça a commencé par des enregistrements, après il les a couchés sur papier. Et puis, en fait, elle les a lus et elle les a réécrits par-dessus. Donc, c'est une forme de collaboration qui est vraiment intéressante. Et c'est vraiment un beau livre parce qu'elle parle de plein de choses. Enfin, elle parle de sa vie, elle parle aussi du rapport à la religion. Elle fait beaucoup de critiques du clergé catholique. Et puis, elle raconte comment est-ce qu'elle s'est politisée tout en étant domestique. Puis son mariage, enfin elle raconte plein d'autres choses. En tout cas, je vous en conseille la lecture. Il est d'ailleurs à la bibliothèque féministe du Mas d'Asile. Ça va être la fin de cette émission. Je voulais finir par parler du fait que donc les différents modèles dont je parle dans ces dernières émissions, donc là on a parlé des domestiques, avant j'ai parlé des femmes au foyer. Les femmes aujourd'hui se retrouvent dans les classes moyennes à endosser absolument tous les rôles qui auparavant étaient divisés entre plusieurs personnes. Oui, je voulais finir par parler aussi de la crise de la domesticité. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du 19e siècle, donc comme on a vu, il y avait beaucoup de femmes, plus de femmes qui travaillaient en tant que domestiques et de moins en moins qui travaillaient en usine parce que c'était de plus en plus mal vu. Bon, après, il y en avait quand même beaucoup qui travaillaient en usine, mais le travail domestique, c'était le premier secteur d'embauche des femmes. Et il y a eu une évolution qui allait dans l'autre sens à partir d'un moment, parce que le travail était tellement dur, en fait, comme on a vu des journées de 16 à 17 heures, que finalement, à partir d'un moment, même si c'était mal vu, les femmes ont décidé d'aller travailler à l'usine où elles travaillaient moins longtemps. Et en fait, jusqu'à la Première Guerre mondiale, entre 1900 et 1914 à peu près, dans la plupart des groupes des pays industrialisés européens, il y a une espèce de crise de la domesticité où les bourgeois se plaignent de ne plus arriver à trouver de bonnes à tout faire. Et donc ça s'explique de différentes manières. Hein. Ça s'explique par ce qu'on a dit, mais ça s'explique aussi par le fait que il y a une apparition de bureaux de placement gratuits, parce qu'avant c'est les domestiques en France par exemple qui devaient payer pour se faire placer. Donc là, ça devient gratuit. Du coup, les gens ne restent plus dans des places où c'est vraiment difficile. Et après, il y a la Première Guerre mondiale, et la Première Guerre mondiale fait que les femmes sont embauchées dans le transport et dans les usines d'armement. Et en fait, à la fin de la Première Guerre mondiale, eh ben, y a plein de femmes qui ne veulent pas retourner dans la domesticité, il y en a de moins en moins. Et parallèlement, il va y avoir le modèle de la fée du logis qui va se développer, c'est-à-dire qu'on va dire aux femmes à quel point c'est super de faire le ménage, etc. Et donc, dans les classes moyennes et les basses classes bourgeoises, ça va être de plus en plus les femmes qui vont se retrouver à faire le travail de certains domestiques. Et donc, de fil en aiguille, on va arriver au modèle des années 50 où, c'est les femmes qui font tout à la maison toutes seules. Et donc, en fait, donc on voit une évolution de avant la révolution industrielle où les femmes travaillent à l'extérieur pour beaucoup. Et en tout cas ont des domaines d'activité extrêmement variés à un modèle dans les années 50 où les femmes sont enfermées au foyer pour beaucoup et se retrouvent avec différentes casquettes d'être à la fois une femme qui doit rester belle et désirable et en même temps qui doit se coltiner toutes les tâches alors qu'avant c'était des tâches séparées. Il y a une citation du livre de Anne Martin Fugier qui s'appelle « La place des bonnes » qui dit bien ce truc-là. « Selon une légende auvergnate, certains hommes meurent sous le poids de la galipote, monstre griffu qui leur saute sur le dos et s'agrippe à leur chair. Personne ne voit la galipote, mais celui qui la porte la sent peser et dépérit immanquablement. Notre galipote à nous, les femmes, n'est-ce pas l'addition monstrueuse de tous les rôles qui, au XIXe siècle encore, étaient répartis entre plusieurs personnes ? Mère, maîtresse de maison, nourrice, domestique, bonne d'enfant, gouvernante, cuisinière, sans oublier l'amoureuse et la courtisane. Et qui, peu à peu, au tournant du XIXe siècle, se réunissent en une seule personne, la femme au foyer, ou plus exactement, la femme à la maison, la femme quand elle est à la maison. » Voilà, on va terminer là-dessus. Et du coup, on a écouté dans cette émission, dans l'ordre, Likely 47, ou je sais pas comment est-ce qu'on prononce, ou peut-être 47, Beach Switch. Et ensuite, on a écouté Bessie Smith et Clara Smith, Far Away Blues. Et là, on va écouter Anne Sylvestre, Le Bonheur Quotidien. Et je voudrais remercier Mélanie qui a fait la technique aujourd'hui. Merci beaucoup. Et on va se retrouver dans un mois pour parler soit encore des domestiques si je décide que j'en ai pas assez parlé aujourd'hui, ou alors on va partir peut-être dans les ateliers de couture. Vous pouvez m'écrire à lafille@laposte.net et vous pouvez aussi trouver ces émissions sur la plateforme radiorageuse.net. Très bonne soirée.
Se lève, adieu le rêve, c'est le matin qui revient. La toilette n'est pas faite, que déjà nous sommes là. L'heure passée, on se tasse, pousse-toi, il faut du bois. Que j'atteigne au moins le peigne, et puis toi ne pleure pas. Mécanique qui s'applique dans les gestes du matin, les gestes qu'on connaît bien. C'est rien, c'est le bonheur quotidien. C'est rien, bonheur quotidien. La cuisine, c'est l'usine où s'apprête la journée. On fredonne, biberonne, le café veut bien passer. Les tartines, les bottines, on fait tout du même coup. On habille une ou deux filles, la journée est entamée. Mécanique qui s'applique dans les gestes du matin, les gestes qu'on connaît bien. C'est rien, c'est le bonheur quotidien. C'est rien, c'est le bonheur quotidien. La vie glisse et puis grandissent les enfants sournoisement. La vie passe et nous déplace, mais parfois sans trop d'éclat. Dans la vague, on se s'en va, mais on s'en va trop loin parfois. La suivante, moins méchante, nous remet où il fallait. Mécanique qui s'applique aux étapes du chemin. Un pas impatient du lendemain. C'est bien, c'est le bonheur comme il vient. C'est bien, c'est le bonheur comme il vient. S'applique dans les gestes de la vie, ceux que jamais on oublie.